Alors bonsoir et merci à vous qui êtes venus affronter le froid et la pluie, quoique il ne pleut plus. On revoit les étoiles là ce soir, c'est très bien. Ce soir, c'est dans la continuité de la fois précédente où on parlait de ce que c'est qu'être un prophète. Une des grandes attaques d'aujourd'hui de l'adversaire, si j'ose dire, c'est de gommer la différence homme-femme et ce qui fait la fécondité des hommes et des femmes. Et si on décrypte un petit peu le combat de Gédéon et de son armée contre les Amalécites, on voit que Gédéon, parce qu'il obéit au Seigneur, va soumettre son armée à plusieurs épreuves. Et la troisième de ces épreuves, qui peut être vue pour nous aujourd'hui comme une des épreuves pour faire un tri dans l'armée des derniers temps, pour répartir dans l'armée les différents rôles, en fait, c'est comme ça qu'on peut voir cette épreuve, c'est de taper sur des cruches. Et du coup, c'est ça qui fait peur à l'ennemi. Il y a un certain nombre de mystiques qui pense qu'il s'agit là de la sponsalité, c'est-à-dire de notre capacité d'homme ou de femme à exploiter notre masculinité ou notre féminité que le Seigneur nous a mis dans le cœur, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, et qui sont spécifiquement masculines ou féminines, et d'exploiter ça pour vaincre l'adversaire, en fait. Parce que l'adversaire nous fait croire qu'on est bestiaux et qu'on est foutu parce que on est bassement matériel comme des animaux, alors que le Seigneur, il dit, mais non, vous allez voir, en vous appuyant sur votre virilité ou sur votre féminité, et avec toutes les richesses que cela comporte, on va botter l'arrière-train de l'adversaire, parce qu'il s'attendra pas à la riposte des hommes qui exploitent leur masculinité et des femmes qui exploitent leur féminité. Et c'est vrai que je crois vraiment qu'aujourd'hui, le Seigneur nous appelle aussi à nous mettre à l'écoute de ce qui est dit dans la Bible, dans l'enseignement de l'Église, notamment avec ce grand prophète qui est Jean-Paul II. Le Seigneur a attendu le XXe siècle pour susciter un grand prophète qui nous ouvre la compréhension de la sponsalité, c'est-à-dire de cette capacité d'union particulière qu'ont les hommes et les femmes, et qui se manifestent d'une manière spécifique pour chaque sexe, et qui vont avoir des répercussions finalement sur tout l'entourage. Ça va être un jaillissement de la grâce, parce que en tant qu'homme ou en tant que femme, on va exploiter ça. Donc ce soir, ça va être plutôt sur les femmes, comment les femmes vont avoir une dimension prophétique, et on va souligner quelques traits de cette dimension prophétique. Tout d'abord, pour reprendre des éléments qu'on a vus la dernière fois, mais présentés de manière un peu plus synthétique, je dirais. La dernière fois, on a étudié le prophète à travers des objets, c'est-à-dire son habillement, sa nourriture, etc., son régime, son mode de vie. Et je trouvais que, la dernière fois, je me suis dit, bah, j'aurais dû peut-être faire une petite synthèse transversale, et je me suis dit, bah, finalement, on peut la faire aujourd'hui. Ça nous remettra en jambes sur ce que c'est que le prophétisme, indépendamment du fait d'être un homme ou une femme. Je pense qu'après, notre manière de fonctionner masculine ou féminine va trouver peut-être des applications concrètes à notre condition spécifique. Voilà, donc les traits du prophète en première partie. Et en deuxième partie, ça sera plutôt un suivi de l'itinéraire spirituel d'une des prophétesses qu'on trouve dans la Bible, qui est Myriam, la sœur de Moïse. C'est un personnage qu'on connaît peu. Ça peut être quelqu'un qu'on étudie, qu'on scrute, parce que l'Écriture dit un certain nombre de choses sur cette femme, et il y a beaucoup de choses à dire. La tradition juive aussi glosse beaucoup sur Myriam. Et puis on fera quelques parallèles avec des personnages bibliques d'autres femmes qui vont faire écho avec Myriam, sœur de Moïse. Donc première partie, le prophète et les traits du prophète. Deuxième partie sur Myriam et tout ce qu'on peut souligner dans cette destinée prophétique d'une grande femme, en fait, hein, parce que c'est parmi les plus grands personnages de l'Ancien Testament, alors qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Alors, le prophète, tout d'abord. Alors, le prophète, on avait dit, c'est la voix du Seigneur. C'est-à-dire que c'est comme si, à chaque fois que dans la Bible, on lit « le Seigneur fait » ou « le Seigneur dit », on peut imaginer qu'il y a des grandes chances. Alors pas systématiquement, mais bien souvent c'est le cas, que cette voix, en réalité, ça soit un ange ou un prophète, enfin une personne, par laquelle cette voix a été entendue, en fait. Voilà. Alors, il y a des fois, des gens entendent la voix du Seigneur directement, mais le Seigneur se complaît à utiliser ses créatures comme messagers, les anges et les hommes, les femmes. Donc ça veut dire que c'est dans les deux sens. Quand on lit « le Seigneur fit » ou « le Seigneur envoya un esprit mauvais » ou... En fait, on peut voir ça dans Alors, pas le hasard, mais la destinée universelle, le fait que le Seigneur régit tout, et régit aussi la volonté des anges et la volonté des anges mauvais, il connaît tout ça, et il s'en sert pour concourir au bien de ceux qu'il aime. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer le Seigneur fit de quelqu'un fit par l'intermédiaire du Seigneur, et à l'inverse, quand il est dit c'est un tel qui fit, on ne peut pas dire c'est pas le Seigneur. En réalité, la personne va se laisser guider par le Seigneur, ou alors va s'opposer au projet du Seigneur, et en faisant ça, va retarder le plan d'amour du Seigneur pour l'humanité. Voilà, donc le prophète biblique, c'est celui par qui Dieu actualise son dessein de salut, il dit sa parole, et Dieu va engager une modification du temps présent. C'est-à-dire, le prophète va être celui que Dieu utilise pour que l'humanité, à un moment, prenne une bifurcation. Que, au lieu de foncer tout droit vers un piège, vers une destruction, vers guerre, une bombe, voilà, Marie va venir à Pontmain et va demander aux enfants de prier. Et on ne sait pas ce qui se serait passé si les enfants n'avaient pas prié le chapelet, mais il y a eu une bifurcation et l'humanité a tendu vers un mieux, au moins en France, parce qu'après, la France étant fille aînée de l'Église, souvent, quand ça déraille en France, il y a des conséquences mondiales funestes. Alors parfois, évidemment, ils annoncent l'avenir. Et il est dit, beaucoup seront prophètes dans les derniers temps. Premièrement, le prophète cultive le silence pour refaire ses forces. C'est un des grands thèmes, finalement, quand on parle du prophète, c'est le désert, quoi. Le prophète, c'est celui qui habite au désert ou qui cultive le désert. Je pense au prophète Daniel. Il était à la cour du roi. Et on a du mal à imaginer le gars qui fait silence, en fait. Parce que c'est peut-être une vue de l'esprit. Le prophète, c'est Élie ou Élisée qui est dans un endroit retiré. Et ben oui, mais Daniel, c'est quand même l'homme des visions. Et on peut imaginer qu'il arrivait à faire silence, même à la cour du roi, où on peut être séduit par les grandes pompes, finalement, par les richesses. Alors lui, il mangeait des légumes. Et on voit finalement qu'il recrée un désert avec la grâce du Seigneur. Il recrée un mode de vie sain, même dans un endroit où, a priori, c'est dur. Voilà. Et on avait évoqué Deutéronome 8, versets 1 à 5, où il y a une explication de pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai envoyé le peuple dans le désert. Il est dit que dans le désert, on y fait du chemin. Il est dit qu'on grandit parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y en a un qui est mécontent de notre temps de désert, de ce lieu où on se dépouille, de ce lieu intérieur tout simplement, où on va se retrouver face au Seigneur au lieu de se raccrocher à des choses extérieures, dans la nourriture, la boisson, le téléphone, ou même le dialogue. Parfois, se taire, c'est une manière de cultiver le désert. C'est là où on éprouve la grâce surnaturelle. Donc au désert, c'était la manne, les Hébreux qui ont trouvé la manne. Le désert, il va y avoir cette manne, c'est les choses que le Seigneur dépose au fond de notre cœur, chaque jour. On avait comparé ça avec le chameau, puisque le chameau, c'est un petit peu le destrier du prophète, ou alors c'est le manteau du prophète en poil de chameau, et on avait dit que le chameau, il met 120 litres dans sa panse, et que ça lui permettait de tenir pendant 10 jours ou 15 jours pour les plus robustes. Le désert, pour un prophète, c'est le lieu où il arrive à cheminer et fort de tout ce que le Seigneur lui a mis dans le cœur, et le Seigneur le recharge avec des choses nourrissantes. Donc, pour un chrétien, un catholique, par exemple, ça va être l'Eucharistie. Entre deux Eucharisties, je peux trouver dans mon désert la réserve d'eau qui va me rendre la joie, me rendre la paix, simplement parce que je dis, Seigneur, maintenant, viens déployer en moi les grâces de l'Eucharistie, et vient déverser sur mes collègues les grâces de l'Eucharistie. Voilà. Et ça marche avec le sacrement de réconciliation, et ça marche avec le sacrement du mariage, ça fait partie des choses. Il faut le développer, ça, de faire vivre les différents sacrements qu'on a reçus ou qu'on reçoit régulièrement pour certains, pour refaire nos forces, même dans un temps de désert, un désert qui peut être simplement un dépouillement par les événements, parce que on a une situation difficile au niveau du boulot, parce qu'on a notre maison en travaux, il y a plein de sujets, hein. C'est là, le désert, où on reçoit des grâces matérielles, suite à notre détachement. C'est là où on apprend la pauvreté, qu'il est dit que ton vêtement ne s'usera pas. Voilà, c'est là où on découvre que les choses qu'on donne au Seigneur, en faisant l'inverse de ce que demande le monde, c'est-à-dire, le monde dit, il faut d'abord que tu sois dans une plénitude corporelle, avec des muscles hyper, voilà, parce que t'es allé au fitness, ou tu t'es bien rempli le ventre, etc., ou t'as bien dormi, ou t'as une vie sexuelle épanouie, ou t'as une vie relationnelle épanouie, ou t'es allé faire un voyage au moins dans l'année pour pour prendre l'air, parce que tu comprends, en France, il y a un moment, on en a marre des paysages de France, etc. Voilà, ce qui est dit dans Deutéronome 8, c'est l'inverse, hein, c'est dépouille-toi et tu verras que ton vêtement ne s'use pas. Voilà, Seigneur, je fais cet acte de foi, d'avoir ce grain de folie, comme un enfant qui va se lancer du toboggan sans se demander s'il est mouillé. Ben moi, ça va être pareil. Voilà, je vais aller faire un temps de prière avant de manger le matin. Je vais aller à l'adoration sur une heure où ça va me pénaliser un peu au niveau du sommeil. Je vais aller, c'est des temps de désert, c'est des petits actes de foi où le Seigneur va, en compensation visible, je dirais, nous donner des petites grâces qui nous montrent que, en fait, on a réussi à tenir sans nourriture, sans sommeil, sans telle ou telle chose que le monde nous vend tant et si bien, comme le démon qui dit à Jésus, transforme ces pierres en pain, tu comprends, t'as besoin de ça pour ta mission, de manger, quoi. Et le désert, c'est le lieu où on découvre la paternité de Dieu. Donc, cultiver ce silence, c'est vraiment la base pour exacerber les grâces prophétiques que le Seigneur nous donne. Voilà, on dit beaucoup, et c'est très juste, c'est le Seigneur qui suscite, c'est le Seigneur qui donne. Ok, mais il y a un langage moderne, je pense qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est je suis capable d'avancer et de prendre ma vie en main pour me mettre dans les bonnes conditions pour recevoir les grâces prophétiques. Et ça, ce sont les conditions de Deutéronome 8, c'est à relire et à méditer, parce que c'est vraiment ce qui nous aide à tenir et à dire, ben non, ce soir, je vais éteindre la télé, et puis je vais prendre ma Bible, et puis je vais lire un petit peu, ou je vais faire quelque chose qui cultive ce désert, qui peut être simplement un choix d'occupation, peut-être moins frivole que l'occupation que je m'étais fixée au départ, quoi. Voilà. Même si c'est pas forcément mauvais de regarder un film, mais ça, voilà, il y a des occupations qui vont nous remplir un peu plus que d'autres.